Généralement, quand tu implantes une marque, tu mets à peu près 2 mois avant tout ton stock et à faire ensuite du ressort. Donc, quand tu te mets vraiment à la place de la boutique, ta boutique, toi, tu as mis de l'argent sur la table, donc tu as payé 300 euros fois 100, fois 1000, fois n'importe. Et du coup, tu dois attendre que chacun des produits se vende avant d'avoir de la trésorerie. Donc, en fait, tu as des produits qu'on appelle qui dorment un peu en rayon. Tu perds quand même de l'argent, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont là, ça ne se vend pas tout de suite et tu dois attendre d'avoir. Donc, effectivement, ils vont vendre et ils vont se, entre guillemets, se rembourser et faire de la marge. Mais c'est un cycle de vente qui est quand même assez long.
Bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster vos ventes. Ici, on parle de prospection, de vente, de closing, de relations clients, de management, mais aussi de mindset. C'est 100% concret. Je suis Laetitia Fall et je vous embarque dans une nouvelle discussion pour rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. C'est votre dose de culture sales. Bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Mylène Foano, qui est la cofondatrice de Sales Tips. Son job, c'est d'accompagner les startups à développer leur pôle commercial et à former notamment leurs sales juniors. Aujourd'hui, je l'ai invitée pour qu'on puisse parler de la phase découverte, qui est une chose sur laquelle, en fait, beaucoup de gens ont beaucoup de mal et qui est généralement la cause du fait que les deals stagnent ou tout simplement que les ventes ne se font pas. Donc, on va prendre le temps d'en parler, du coup, avec Mylène et même de faire une simulation en direct sur un produit physique. C'est pour ça que j'ai invité Mylène, parce que c'est ça qui est intéressant. Du coup, Mylène, est-ce que tu peux te présenter ton activité?
Bien sûr. Écoute, ravie d'être avec toi. Donc, moi, c'est Mylène. J'ai cofondé Sales Tips, qui est une agence où on va accompagner notamment des marques, donc des DNVB et également des SaaS à créer.
Tu peux préciser c'est quoi les...
Les petites significations les... Alors,
ouais, parce que oui.
DNVB, ça va être c'est le Digital Native Brand. Donc en fait, c'est toutes ces marques un peu trendy qu'on va trouver sur Internet. Donc c'est-à-dire que généralement, elles commencent en ligne via leur site e-commerce. Elles vont cartonner généralement, c'est vraiment des personnes qui maîtrisent le côté digital. Et ensuite, dans un temps d'eux, elles vont décider de s'implanter en boutique, que ce soit des grands magasins, pharmacies, magasins bio. Et donc moi, mon job, c'est vraiment de les accompagner là-dessus, déjà de les former parce que souvent, ils n'ont pas de notion B2B, ils sont plus vraiment sur du B2C. Donc je vais les accompagner, je vais les former, on va créer ensemble tout ce qui est bien conditions commerciales, comment on va attaquer ces différents secteurs, ces différentes boutiques. Et de là, je vais aussi les accompagner à prospecter et ou à former leur junior.
Ok. Et tu fais ça depuis combien de temps?
Ça fait... Alors moi, ça fait 10 ans que je suis commerciale et j'ai pu toucher vraiment à toutes les phases du sales. J'ai toujours été dans le produit, que ce soit gestion de portefeuille ou chasse. J'ai vraiment fait les deux. Et donc, ça fait 4 ans que je fais du business développement à mon compte. Pardon. Et 2 ans qu'on a lancé Sales Tips avec mon associé Anne.
Ok, très bien. Et ben du coup, en fait, je trouvais ça intéressant d'inviter quelqu'un qui est dans le produit parce que je sais que pour le coup, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont approché et pour que je puisse donner des conseils. Et c'est une vente complètement différente.
Ça fait.
Mais en fait, pas tant sur la partie phase de découverte, mais j'aimerais peut-être qu'on prenne un peu le temps d'en parler, des points de différence, parce que je sais qu'Anaëlle travaille beaucoup plus sur tout ce qui est SaaS.
Exactement.
Et dont on parle beaucoup ici. C'est quoi les différences notoires que tu vois sur la partie vente, que ce soit globalement? Comment on approche globalement un magasin quand on a un produit? On va faire une simulation ouais. directe, mais voilà, comment on approche et quoi les conseils? Si tu as 3 conseils à donner à quelqu'un pour qu'il puisse s'implanter sur ses premiers magasins.
Alors, déjà, la vraie différence entre je vends un SaaS ou je vends un produit, quand on est commercial, la différence, ça va être vraiment au niveau des techniques de vente et de ce qu'on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je vends un produit, OK, je le vends à une boutique, mais cette boutique-là doit le vendre à un client final. Chose qu'on ne va pas avoir dans le SaaS, parce que généralement, ça va être un outil qui va nous aider au quotidien. Donc, la vente s'arrête au moment où j'ai mon client qui signe. Alors que nous, en produit, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, OK, même si j'implante mon produit en magasin, il est possible qu'il ne se vende pas, qu'il n'y ait pas de réassort et du coup, je perds du chiffre d'affaires. Donc, il y a toute une partie de gestion de portefeuille, de fidélisation qui va être importante. Et c'est à nous, en tant que sales aussi, d'accompagner les boutiques à vendre notre produit au client final. Donc ça, c'est une chose qui n'existe pas. Du coup, c'est vrai sur le SaaS. Et ensuite, comment prospecter? Donc, la différence aussi, c'est qu'on va parler de conditions commerciales, de franco, de colisage, de marge, chose qui n'y a pas non plus sur le SaaS. Et ensuite, en termes de prospection, honnêtement, toute la première partie, c'est-à-dire prospection, phase de découverte et autres, ça va ressembler quand même au SaaS, c'est-à-dire qu'on va se définir des canaux. Et de là, l'objectif, ça va être d'aller chasser des boutiques. Ce qui fonctionne très, très bien, moi, je trouve, c'est le cold call. Alors, ça va dépendre des cibles, on est d'accord. Est-ce qu'on se parle de grands comptes du style Sephora ou des petits magasins concept store un peu trendy qui sont indépendants? Effectivement, les moyens utilisés vont être complètement différents. Mais le cold call, quand même, fonctionne très, très bien. Et ce qui va être difficile en produit, c'est que bah, déjà, ils vendent beaucoup de marques et potentiellement, ils vendent déjà tous mes concurrents. Donc, il va falloir réussir à rentrer. Alors, mon conseil, c'est de se dire, OK, comment je peux apporter une solution qui va être différente? Qu'est-ce qui fait que finalement, il va vouloir implanter mon produit? Et en fait, le problème, c'est quand on voit un produit, surtout les fondateurs, start-up, c'est généralement les fondateurs qui prospectent, ou ça va être des sales juniors, ils vont parler que du produit. Alors qu'en fait, ton client, c'est pas ça, c'est pas de vendre encore une énième crème qui va l'intéresser. C'est qu'est-ce que lui, ça va lui apporter? Est-ce que ça va être d'augmenter son chiffre d'affaires, de recruter une nouvelle clientèle? Et c'est là que parfois, ça pêche.
Ok, nickel, trop cool. En fait, moi, par contre, j'aimerais juste savoir, parce que alors, tu as parlé des petits magasins, donc effectivement, là, le cold call, c'est plus simple. Mais généralement, voilà, t'as développé un parfum, t'as développé une nouvelle crème, t'as envie d'aller attaquer les Sephora, les Monoprix, etc. C'est qui la target d'une boîte? Enfin, je trouve que c'est hyper difficile de dire, en fait, qui tu contactes, en fait, dans ce type de structure. Est-ce que c'est les achats? Est-ce qu'il y a un service spécifique? Voilà, en gros, qui tu targetes?
Qui je contacte?
Plusieurs personnes?
Alors non, en fait, il y a vraiment un service achat. Il y a vraiment des personnes, notamment dans les grandes boîtes, les grands comptes, il y a vraiment une personne qui va acheter ton produit. Alors, ce qu'il faut savoir, comment ils sont structurés, c'est-à-dire qu'il y a le pôle achat. Et dans mon pôle achat, si je prends par exemple Sephora, il y a une personne qui va s'occuper que du parfum, une autre personne qui va s'occuper que du maquillage, une autre personne que du vernis. Donc, moi, quand je vais targeter, l'objectif, si je vends un parfum, par exemple, déjà, ça va être de trouver donc, le service achat. Et sur ce service achat, je vais trouver la personne qui est vraiment en charge d'acheter les parfums.
Ok, et justement, est-ce que c'est plus simple que sur le SaaS dans le sens où, en fait, eux, ils sont en recherche de nouvelles opportunités, de nouvelles pépites à intégrer dans leur magasin? Donc, est-ce que c'est plus simple de prendre des rendez-vous ou est-ce que tu as le même phénomène qu'on peut avoir dans d'autres industries où, en fait, on a peu de réponses aux messages ou peu de réponses aux différentes approches qu'on peut mettre en place?
Alors, on aurait fait ce podcast il y a un an ou deux ans ou trois ans, c'est-à-dire après Covid, c'était hyper simple. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un peu un tournant. Et effectivement, bah, toutes ces DNVB, donc toutes ces marques hyper tendances qui cartonnent en ligne, Sephora, enfin toutes les grandes entreprises vraiment les cherchaient. Donc dès qu'on prospectait, ils étaient très à l'écoute du marché, ils avaient envie d'avoir des nouveautés et notamment des personnes qui maîtrisent la partie réseaux sociaux et digital. Du coup, c'était super simple. Honnêtement, ils étaient là, ils étaient à l'écoute du marché, ils avaient envie de découvrir des nouvelles marques. En 2023, là, on sent que c'est en train de devenir très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui se sont lancées, notamment en cosmétique, par exemple. Il y a quand même beaucoup de jeunes boîtes qui se sont lancées. Donc, maintenant, ils sont prospectés tout le temps. Et donc, plus compliqué à les joindre parce que saturés et qu'aujourd'hui, on galère honnêtement à avoir des rendez-vous avec les grands comptes.
Ok, très cool. Alors, du coup, je reviens sur ce que tu disais avant. La difficulté ce type de vente, c'est effectivement de ne pas parler de son produit alors que c'est hyper tentant parce que c'est pas forcément évident, de trouver un axe différenciant sur entre une crème et une autre. Donc, on va faire l'exercice, mais tu vois, c'est compliqué de dire je vais vous parler des bénéfices de ma crème. Bon, généralement, toutes les crèmes font que t'as un super bon teint.
C'est ça.
Qu'elles vont être fluides. Enfin, tu vois, il y aura toujours les mêmes arguments. Donc, c'est quand même compliqué, je trouve, sur des produits. Là, on parle beaucoup de cosmétiques, mais on pourrait parler d'autres produits.
Bien sûr.
De trouver un axe différenciant. On va parler de la phase de découverte, justement, qui te permet, en tout cas, de pouvoir voir un petit peu les besoins. Toi, aujourd'hui, tu as accompagné pas mal de gens. Tu dis que les problèmes, c'est qu'ils parlent beaucoup de leurs produits. Qu'est-ce qui fait qu'ils parlent beaucoup de leurs produits? Est-ce que ça joue au niveau de la phase de découverte? Est-ce que ça se joue tout simplement parce qu'ils ne savent pas faire autrement ou une méconnaissance, en fait, en tout cas, du marché, par exemple, et comment ils pourraient positionner leurs produits? Comment ça marche?
Ce que je remarque, c'est qu'effectivement, en fait, ils ne vendent pas, ils présentent. Et pour moi, la vraie différence entre présenter et vendre, vendre, c'est que tu mets des techniques de vente et notamment la phase de découverte. Et en fait, pour moi, il y a deux cas. Soit ils ne font pas forcément de phase de découverte parce qu'ils se disent « Ok, j'ai obtenu mon rendez-vous, c'est bon, j'ai un super produit, donc j'ai juste à le présenter, c'est sûr qu'il va acheter. » Ou alors, ils vont faire des phases de découverte mais qui sont très standardisées. C'est-à-dire, ils posent 3-4 questions parce qu'ils ont vu que c'est comme ça qu'on devait faire et qu'au fil du temps, ils posent toujours les mêmes questions. Ce qui fait qu'ils n'écoutent même pas les réponses. Et donc, ensuite, ils se lancent sur une présentation du produit. Et comme je l'ai dit, encore une fois, si tu vas dans du magasin, le concept, c'est un grand magasin, ce n'est pas encore une crème qu'ils veulent. C'est quelque chose de différenciant. C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va leur permettre potentiellement d'avoir plus de chiffre d'affaires. Et en fait, c'est ça. Il faut, dans ta phase de découverte, il faut vraiment trouver quel est le pain de ton prospect, quel est ce point de douleur, qu'est-ce qu'il a envie de faire dans sa boutique cette année, comment tu vas lui apporter cette solution. Et ce n'est pas de référencer une crème ou un énième produit. Ça va être vraiment d'augmenter son chiffre d'affaires, de fidéliser sa clientèle, d'augmenter le panier moyen. Et c'est comment tu vas répondre à ces problématiques-là. Mais cette problématique, tu dois la trouver dans ta phase de découverte.
Ok, très bien. Ce que je te propose, c'est que, parce qu'à chaque fois qu'on a ce type d'échange, parfois les gens peuvent se dire « Ok, bon, c'est des choses que j'ai déjà entendues, que j'ai déjà lues sur LinkedIn, je vois très bien, etc. » Mais c'est la mise en pratique. Donc, je te propose qu'on fasse une mise en pratique directe.
Ouais.
Et du coup, que tu me fasses une démonstration sales de, d'une vente d'un produit. Du coup, le use case qu'on a choisi, c'est je suis une marque cosmétique. En gros, moi je suis plutôt un magasin plutôt.
Ouais. Oui. C'est moi la marque.
C'est toi la marque. C'est toi la marque cosmétique. T'es une marque cosmétique, on va dire made in France, bio, tout ce qui existe aujourd'hui. Et tu proposes en fait des soins visage à prix accessible. Donc on ne sait pas ce que c'est prix accessible, mais au moins voilà. Les auditeurs entendront là-dessus. Et du coup, moi, pour le coup, tu m'as démarché, on a eu un rendez-vous, on va dire que je suis un petit magasin de quartier, et tu m'as démarché et tu m'as eu grâce au call-call. Et du coup, voilà.
Ça marche.
Tu me dis quand t'es prête et on y va.
Écoute, c'est bon pour moi.
Go. Je te laisse commencer.
Bonjour Laetitia, écoutez, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est peut-être de me parler un petit peu de vous, de votre boutique. Ensuite, évidemment, je vous présenterai ma marque de cosmétiques et ensuite, je répondrai à toutes vos questions. Est-ce que ça vous va?
Yes, ça me va très bien.
Super.
Parfait.
Dites-moi en plus, du coup, ça fait combien de temps que vous avez créé votre boutique?
Du coup, moi, ça fait à peu près 3 ans que j'ai créé ma boutique avec mon copain. L'idée, c'était de... j'ai toujours été très, très touchée par toutes les questions liées à notre consommation. Et du coup, moi-même, je consommais beaucoup local. En tout cas, je cherchais vraiment à consommer local. Et je me suis dit que je pouvais participer à ce mouvement. Et donc, moi-même, j'ai décidé de créer ma propre boutique, mettre en lumière tout le local. Donc, je travaille avec beaucoup de gens autour de nous. Et aussi, également, développer beaucoup le vrac pour notamment réduire les différents impacts qu'on peut avoir sur l'écologie. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, dans notre boutique, on a énormément de produits qu'on peut acheter en vrac. Donc voilà, c'était le début.
C'est génial.
Et le cœur de notre projet. Voilà.
Super, bravo. Félicitations. En tout cas, c'est vraiment un beau projet. Est-ce que vous avez des enjeux particuliers là sur cette fin d'année ou pour l'année prochaine en termes, imaginons, de recruter des nouvelles clientes ou d'autres enjeux au sein de votre boutique?
En fait, moi, aujourd'hui, mon enjeu, il est toujours le même. Il n'a pas changé depuis 3 ans. L'idée, c'est de faire connaître ma boutique. Donc, je travaille beaucoup là-dessus. Et bien sûr, de faire venir le plus de monde possible. On a vécu des temps pas super faciles ces derniers temps.
Effectivement.
Notamment, la boutique, on l'a ouverte un peu avant le Covid. Donc, du coup, voilà. Là, l'idée, c'est d'attirer le plus de monde possible et de convertir un maximum de personnes sur le fait de consommer local.
Super. Et vous mettez déjà en place des actions?
Alors, les actions qu'on va mettre en place, c'est notre présence sur les réseaux sociaux. On va aussi également faire pas mal de réductions au sein de notre magasin pour pouvoir attirer pas mal de monde. On va aussi également distribuer, alors ça peut paraître très, très old school, mais on va distribuer aussi également des flyers dans le quartier.
Okay, génial.
Pour faire découvrir en fait la boutique. Du coup, voilà, aujourd'hui, les moyens, on essaie de coupler les moyens physiques pour aller à l'encontre de la population qui sont nos potentiels clients, et aussi d'être présents sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, puisqu'effectivement, on a des produits, certains produits que d'autres n'ont pas et qui peuvent faire la différence, et on peut attirer de nouvelles personnes à venir chez nous pour trouver certains produits pertinents.
Super. Et du coup, comment vous choisissez vos marques, vos produits partenaires? Vous avez des critères précis?
Alors, les critères, évidemment, ça va être tout ce qui va être made in France. Ça, c'est extrêmement important
pour
nous.
On est d'accord.
D'avoir des produits de qualité. Ça c'est alors tout le monde dit qu'ils ont des produits de qualité, mais en fait c'est vraiment des produits qui se vérifient comme bons pour la santé, éthiques dans la manière en fait où ils sont produits, dans la mesure où effectivement notre objectif c'est pas juste d'être made in France, mais aussi également d'avoir des salariés bien traités, etc., dans des structures avec lesquelles on travaille. Et aussi également, évidemment, plus financier, qu'on puisse faire de bonnes marges. Parce qu'il y a parfois des produits qu'on a vendus, mais on a perte un peu.
Ok, voilà. Super. C'est noté. Et bon, vous m'avez dit que vous aviez cette boutique avec votre compagnon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes au sein de la boutique?
On est tous les deux pour l'instant.
Super, ça marche. Et ça serait quoi pour vous la marque parfaite?
Voilà, question difficile, j'arrive pas à vous poser. Écoutez, comme je vous l'ai dit, je pense Made in France, une marque bio qui soit engagée dans ma boutique pour faire les choses bien. Je veux pas forcément en fait de grosses structures, etc. Mais voilà, l'idée c'est qu'on puisse avoir les informations sur tout concernant le produit et qu'effectivement je puisse faire une bonne marge avec.
Ok, super, voilà. C'est noté. Et du coup, est-ce que vous connaissiez ma marque?
Non, pas du tout. Je la connaissais pas du tout. C'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir plus d'informations, mais je connaissais pas du tout.
Ça marche. Écoutez, moi, je suis ravie de pouvoir vous présenter notre marque Luminia aujourd'hui. Bon, pour vous en dire un petit peu plus, Luminia, on est une jeune marque de soins visage qui a pour objectif de rendre accessibles les produits bio de qualité et made in France. Donc, accessible comment? Eh bien, par le prix. On va avoir uniquement une gamme de soins visage à moins de 15 euros. Donc, ce qui permet notre objectif, c'est que chacun puisse pouvoir avoir des produits bio, made in France, et made in France pour tout le monde. Accessible aussi, notre mission, c'est de pouvoir être présent dans chacune des villes de France, et on a sélectionné des boutiques comme la vôtre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on partage exactement la même mission, la même vision et les mêmes valeurs. Donc, c'était important pour nous d'avoir des partenaires qui représentent notre marque. Et donc, on a choisi des boutiques locales, magasins bio comme vous. Nous, ça fait 5 ans qu'on existe chez Luminia. On a vraiment réussi à créer une très belle communauté sur les réseaux sociaux. Je vous laisserai aller voir notre Instagram. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment beaucoup de demandes de la part de nos clients pour nous découvrir en boutique. On se doute, quand on choisit une marque de cosmétiques, on aime bien quand même pouvoir tout simplement l'essayer, être conseillé et choisir la bonne crème. Donc nous, notre but aujourd'hui, c'est de pouvoir les rediriger dans votre boutique. Vous pourrez ainsi donc recruter des nouvelles clientèles, et vous m'avez dit que l'un de vos enjeux, c'était aussi de faire découvrir votre boutique. Donc nous, on a vraiment envie de vous accompagner à réussir maintenant. Est-ce que vous avez des questions?
J'ai pas principalement de questions, ça me paraît plutôt clair. Peut-être en savoir un peu plus sur cette gamme. Qu'est-ce qui fait la différence entre vos produits et les autres? Pour être complètement transparente, en fait, nous, la cosmétique, ça marche pas très bien chez moi.
Okay.
On n'en vend pas beaucoup. On a quelques crèmes, etc., des soins pour visage, des gommages, etc. Mais voilà, c'est pas là où en fait on fait nos ventes principales. Donc voilà. D'ailleurs, on s'est posé à un moment donné la question avec mon compagnon.
De continuer ou non
De l'intérêt peut-être de voilà.
Ok, intéressant. Combien de marques me proposer?
En gros, on va dire qu'on propose après 4 marques globalement, qui sont présentes généralement dans les magasins qui nous ressemblent, et voilà, et qui sont attendues en fait par les personnes qui fréquentent le genre de magasin qu'on propose, qu'on a.
Je vois. Et bon, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez fait des offres promotionnelles. C'est aussi le cas sur cette gamme, sur ces gammes de cosmétiques?
Non, non, parce que les marges ne sont pas suffisamment importantes pour pouvoir le faire. Donc non, on n'a pas forcément fait d'offres particulières sur ces cibles.
Ok, je comprends. Est-ce que moi, si par exemple, imaginons que je m'engage, si on fait par exemple une période d'essai sur ma marque, où je m'engage à reprendre les produits si ça ne fonctionne pas, est-ce que ma marque peut vous intéresser?
Bah, si vous reprenez les produits, si ça ne fonctionne pas, oui, c'est pas forcément le deal que j'ai avec les autres, donc oui, pourquoi pas. Enfin, voilà. L'idée, c'est peut-être plus d'en savoir un peu plus sur ce qui différencie voilà, vos produits avec ce qui peut exister sur le marché aujourd'hui.
Ça marche. Donc, pour vous en dire un petit peu plus, nous, notre gamme, elle est composée de 2 nettoyants, pour peau mixte et pour peau sèche. On va avoir 2 sérums, 2 crèmes visage hydratants. Comme je vous le disais, on est sur des produits de qualité, notre laboratoire, et en France. Et donc, l'objectif, vous vous en doutez, avec les cosmétiques, c'est d'avoir une peau qui va être éclatante, lumineuse et qui soit bien hydratée. Je vais vous parler un petit peu de nos conditions commerciales, si ça vous convient. Donc, nous, okay. Nos produits sont colonisés par 3. Le franco est à 150 €. Et vous faites un co-op de 2,5 sur l'ensemble de notre gamme. Vous m'avez dit que vous margiez peu. Sur les autres gammes de cosmétiques, nous, on a fait le choix vraiment aussi de privilégier nos revendeurs en leur offrant un COS qui est plus que généreux. Parce que bon, je suppose que vous êtes sur la cosmétique, vous êtes sur quel type de marge? Autour d'un 8, un 9, 2?
Plutôt
un 2, ok, effectivement. C'est très peu. Donc nous, on va vous proposer 2,5 pour que vous puissiez. Bah, l'objectif, nous, clairement, c'est que vous viviez aussi. C'est important. Donc, par exemple, une crème que vous avez achetée que vous allez revendre 15 €, vous allez l'acheter 6 €.
Ok, très clair. Alors, moi, en fait, est-ce qu'il y a une possibilité, effectivement, de demander d'abord l'avis à certaines clientes en fait, qui arrivent pour que je puisse en fait, être sûre de ne pas m'engager? Est-ce que vous faites ce genre de choses avec d'autres magasins?
Alors, on peut le faire. Donc, ça veut dire que, par exemple, si on se fait une petite phase de test, vous seriez intéressé pour référencier ma gamme.
Bah, pourquoi pas, en fait, l'idée, c'est que d'abord que moi, je puisse avoir un moyen de valider le besoin auprès de gens qui fréquentent le magasin, peut-être trouver une stratégie, en fait, effectivement, pour pouvoir les faire connaître et voir, effectivement, si ça, c'est un intérêt pour nous de rajouter un cinquième produit.
Ouais, effectivement, c'est important.
Une cinquième marque.
Alors, moi, je peux vous proposer 2 choses. Soit on part sur notre pack qui est complet à 350 €, vous aurez l'ensemble de la gamme. Je peux vous faire une remise additionnelle pour que vous puissiez marger un petit peu plus et vous mettre un joli présentoir pour que vous puissiez faire de belles mises en avant. Ou alors, on part sur notre pack découverte à 150 € et vous me faites un paiement à 60 jours pour que justement, vous puissiez faire d'abord tester, vendre nos produits avant même de pouvoir régler. Est-ce que ça pourrait vous convenir?
Ok, ça peut être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Ce que je vous propose, c'est peut-être si vous avez possibilité de m'envoyer des choses pour que je puisse regarder, poser et moi en parler aussi également avec mon compagnon pour qu'on puisse prendre cette décision-là et de revenir vers vous et on se reparle prochainement.
Oui, bien sûr, pas de souci. Je vais prendre votre adresse email et vous envoyer notre petite présentation. Est-ce que ça peut être intéressant qu'on programme un deuxième rendez-vous, notamment avec votre conjoint, pour que je puisse un petit peu lui parler de la cote?
Ok, ouais, très bien. Faisons comme ça. Programmons tout
ça. Eh bien, c'est noté. Okay. Merci, Laetitia.
Je t'en prie. Je t'ai dit, je t'en prie. Bon, il y a des petites fautes que j'ai faites parce que ce n'est pas mon domaine. Donc, les auditeurs me pardonneront, surtout sur la marge de 1-2.
Ce n'est pas possible. T'as-tu senti?
Donc, tu m'as dit 1-8. En fait, tu m'as dit 1-8, 1-9, 2. Et en fait, je me suis dit, bon, je vais lui dire le plus bas, 1-2. Et en fait, c'était 2. Après, j'ai compris trop tard.
Et je me suis douté.
Bon, vous excusez.
Je me suis douté que tu n'avais pas les notions. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais lui donner des marges qu'elle choisisse entre 1-8, 1-9.
Oui. Il faut que je sois accélère avec les gens. Bon, de toute façon, les gens connaissent un peu ceux qui écoutent le podcast savent que généralement, moi, ma spécialité, c'est beaucoup plus les SaaS.
Et
donc,
oui.
Je ne connais rien. Je n'ai jamais vendu de produits physiques. J'aimerais bien, d'ailleurs.
Tu peux vendre un 2, mais ça veut dire que tu vends prix coûtant. Tu ne marches pas dessus.
D'accord. Ok, ce que je te propose, c'est qu'on décrypte un petit peu cette phase de découverte pour que les gens puissent à peu près comprendre effectivement les raisons pour lesquelles t'as posé des questions. Je le dis souvent, mais une phase de découverte, ce qui compte, c'est l'information que tu vas vouloir chercher. Et donc, c'est déjà cibler les informations que tu veux pour ensuite formuler les questions de la bonne manière. Du coup, sur la première, première phase de la phase découverte, tu poses la question de me parler un peu de la boutique, etc., des objectifs que j'ai, et voilà, donc ça paraît un peu clair. Justement, là, je vais te challenger un peu, mais justement, la deuxième question où tu poses, est-ce que vous avez des enjeux particuliers cette année ? Est-ce que cette question te suffit généralement dans la real life ?
Ouais.
Pour avoir vraiment, ou est-ce que tu creuses beaucoup plus, là on était dans l'exercice, mais est-ce que tu creuses beaucoup plus parce que, bah voilà, est-ce que le fait que je te dise j'aimerais faire connaître ma boutique et attirer plus de monde, est-ce que tu as besoin de plus d'éléments pour pouvoir positionner un produit ?
Alors généralement, quand je pose cette question, donc comme tu as vu, je la pose de façon très large, et dans la réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils ont du mal à répondre. Donc je suis obligée d'argumenter et de leur poser des questions en mode, ok, est-ce que c'est plutôt d'augmenter votre chiffre d'affaires ? Est-ce que c'est plutôt de fidéliser ? Alors ça va dépendre de la taille de la boutique et du secteur d'activité. Il y en a, clairement, c'est des vrais businessmen. Donc, ils savent tout ça. D'autres, par exemple, tout ce qui est un petit peu magasin bio, concept store, c'est pas forcément des choses auxquelles ils ont réfléchi plus que ça. Donc, il va falloir, au niveau des questions, vraiment les aider, les aiguiller pour trouver vraiment la bonne réponse. Mais moi, ce que je veux vraiment savoir, effectivement, j'ai pas besoin de creuser plus que ça. En fait, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, c'est quels sont ces enjeux ? Est-ce que c'est plutôt de recruter, de fidéliser, d'augmenter le panier ? Moyen qu'on se le dise, hein, dans une boutique, c'est souvent les mêmes choses. C'est je veux augmenter mon chiffre d'affaires, mais en fait, c'est comment je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Est-ce que j'ai un problème de fidélisation, c'est-à-dire que je me rends compte que les gens viennent une fois et ne reviennent pas dans ma boutique, et ça, c'est un vrai problème. Comment je fais pour qu'ils reviennent régulièrement et qu'ils découvrent des nouvelles marques ? Ou au contraire, j'ai déjà une clientèle fidèle, je les connais, je les tutoie, enfin bref, on se fait presque la bise, ça arrive souvent aussi. Hein. Donc, je les connais parfaitement, mais finalement, ben, je n'ai pas d'autres nouveaux clients qui viennent. Comment je vais faire en sorte d'attirer des nouveaux clients dans ma boutique. Donc souvent, c'est ça leurs enjeux. Ça peut être aussi de rationaliser les gammes, c'est-à-dire qu'ils ont tellement de produits qu'aujourd'hui, c'est flou, c'est dispersé et qu'ils veulent se recentrer. Donc moi, j'ai juste besoin d'avoir ces informations-là. Pourquoi ? Pour ensuite vraiment adapter mon discours et sortir des bons. Bah, ok, vous m'avez dit que vous avez envie de recruter une nouvelle clientèle, en ayant une nouvelle marque de cosmétiques, et vu qu'on fait beaucoup, on est très présent sur les réseaux sociaux, forcément, vous allez attirer des nouvelles clientes.
Ok, donc l'idée, c'est vraiment de creuser au maximum cette partie à partir du moment où tu pars de cette question, est-ce que vous avez des enjeux particuliers cette année ? Et tu creuses en fonction de ce qu'ils te disent et aussi de leur niveau de connaissance.
C'est ça.
Ensuite, la question que tu poses, c'est comment vous choisissez les marques partenaires ? Est-ce que vous avez des critères précis ? Encore une fois, qu'est-ce que tu cherches à avoir là ? Est-ce que tu n'as pas tout le temps les mêmes réponses, finalement ?
Alors, non, ça dépend. Pourquoi je pose cette question ? Alors là, entre guillemets, on était un peu, on va se le dire, dans un cas facile où je suis une marque de cosmétiques made in France. Mais imaginons que je sois un autre produit ou même une marque de cosmétiques, déjà pas made in France, pas bio. Enfin, tu vois, et que je sais que je prospecte du magasin bio, ben, je vais quand même devoir savoir si mon critère made in France, il est négociable ou pas. Pour pouvoir ensuite, okay. Si je sais, en fait, moi, mon objectif quand je pose cette question-là, c'est de se dire, ok, je connais les freins de ma marque. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, bah, par exemple, elle va être un peu plus chère, ou elle n'est pas made in France, ou elle n'est pas bio. Et je veux savoir, dans ma phase de découverte, est-ce que ça va être un vrai problème ? Est-ce que ça va être une objection ? Pour pouvoir un petit peu l'anticiper, okay. Et savoir y répondre.
Ok, très clair. Et du coup, ensuite, tu poses la question de, bah, effectivement, avec qui d'autres ils prennent des décisions. Est-ce que justement, dans ce cadre-là, j'imagine des petits magasins de quartier, un peu local, etc. Est-ce qu'il y a souvent la décision, elle se prend vraiment à plusieurs ou généralement c'est qu'une seule personne qui prend la décision ?
Généralement, c'est qu'une seule personne, c'est le gérant de la boutique. Mais okay. Par contre, ce qui est hyper intéressant sur les petits mags comme ça, parfois c'est difficile parce qu'ils veulent l'avis des clientes. C'est-à-dire, c'est limite, c'est si la cliente, elle valide ton produit, qu'elle va le référencer. Donc, il y a un truc très... ils sont très dans l'affect. Tous les indépendants, tu vois, quand même, ils ont corps et âme pour créer leur boutique. Donc, les marques qu'ils choisissent, ils vont vraiment les choisir au coup de cœur. Il faut réussir à convaincre les clientes et forcément le gérant pour être intégré. Ce qui ne sera potentiellement pas du tout le cas, par exemple, en pharmacie. Pharmacie. Tu peux avoir, donc soit tu as un acheteur, soit c'est le titulaire de la pharmacie qui va prendre la décision. mais entre guillemets, je ne veux pas poser les questions aux clients. C'est soit j'arrive à te convaincre, et il faut savoir que la pharmacie, par exemple, c'est très différent. C'est des vrais businessmen. C'est-à-dire qu'il faut que tu leur donnes des arguments, de la marge, recruter et autres. C'est ça qui va faire qu'ils vont prendre la décision de référencer ou pas.
C'est vraiment la partie plutôt sales et combien ils vont gagner en fait sur chaque produit.
Exactement.
Ok. Une question en fait qui m'a où j'étais un peu perplexe, où je me suis dit mais en fait ok, qu'est-ce que ça te permet, enfin est-ce que quelqu'un peut vraiment te répondre à ça sans dire des choses un peu bateau, c'est ça serait quoi pour vous la marque parfaite?
Là ce que je vais chercher c'est vraiment potentiellement quelque chose qu'elle ne m'aurait pas dit. C'est une technique qu'on utilise beaucoup avec Anaëlle en disant bah ok, si j'étais le Père Noël, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous référencier ma marque, pour vraiment avoir un petit détail, quelque chose de très précis. Alors effectivement on va repartir sur des critères très larges aussi, made in France, de qualité et autres. Par contre tu m'as donné une info que je crois que tu m'avais pas donnée avant, c'était notamment le fait de marger sur tes produits. Donc ça, j'ai su que pour toi, c'était okay. Important et j'ai pu l'accentuer ensuite dans mon discours.
Ok, nickel. Ouais. Après, bon, du coup, la dernière question était un peu, est-ce que vous connaissez ma marque, pour voir effectivement ton rayonnement ou s'ils avaient déjà vu ta marque, par exemple, sur les réseaux, etc. Ok, du coup, sur la partie questions, généralement, ça, c'est ton cœur de question. Est-ce qu'il y a d'autres questions que tu n'aurais pas mentionnées ici qui te semblent vraiment importantes? Notamment, je pense, plus sur la phase de décision, où j'ai trouvé que là, c'était l'exercice, mais... Ce qui est le plus difficile, en fait, en tout cas pour tous les sales, n'importe quelle industrie, c'est de surmonter l'indécision du coup de leur prospect. Là, en fait, j'ai l'impression que sur un produit, j'ai déjà 4 marques. Pourquoi j'en prendrais 5? C'est pas urgent, en fait. Comment tu arrives à faire en sorte, justement, peut-être que c'est pas une question, mais peut-être que c'est justement à la fin, j'en sais rien, à faire en sorte de faire en sorte que tu vas avoir une décision rapidement et que on se finit pas, même si tu m'as proposé un autre rendez-vous, peut-être que tu m'as proposé un rendez-vous, mais soit je l'annule, soit peut-être que j'annule pas, mais j'ai pas pris la décision et puis on se refait un meeting où je te dis oui, on trouve ça intéressant, mais voilà, et finalement on n'a pas vraiment avancé.
Alors dans la réalité, ça se passe vraiment comme ça, c'est-à-dire c'est quand même très rare en produit de faire des ventes one shot. On va avoir énormément de relances à faire parce que là, en plus, tu ne me connais pas. Donc, il y a vraiment toute cette phase, entre guillemets, d'éducation du prospect à lui dire « Coucou, regarde, j'existe. Oui, j'ai un super produit. Oui, je réponds à tous tes besoins et tu vas recruter des nouvelles clientes grâce à moi, par exemple, ou bien marger. » Et de là, il y a vraiment ce truc où ils mettent du temps parce que, comme tu le disais très bien, ils ont déjà des produits. Il n'y a pas d'urgence. Et même, c'est très difficile de créer l'urgence au niveau des produits parce qu'en fait, non, il faut être honnête, il n'y a pas d'urgence. Donc effectivement, la seule façon de...
Non, mais c'est hyper important que tu le dises, parce qu'en fait, en gros, j'ai l'impression que ce n'est pas dans ce que tu vas dire ou ce que tu vas faire dans ce rendez-vous-là, c'est plus le travail d'après, c'est la relance qui va te permettre en fait, de pouvoir avoir une décision.
C'est ça.
Ce qui est un peu différent, tu vois.
Et j'ai essayé beaucoup de techniques, c'est-à-dire par exemple dire « Ok, je vous fais une offre promotionnelle, c'est là, maintenant, tout de suite, elle sera plus valide après. » Honnêtement, ça ne marche pas. Enfin, c'est rarement ça qui... Il y en a quelques-uns, on va pas non plus généraliser. Mais en règle générale, ils vont dire « Non, mais attendez, je prends le temps et tout. J'ai besoin de regarder, j'ai besoin de m'informer. » Donc, potentiellement, il va falloir 2 ou 3 rendez-vous avant de signer ton client.
Non, mais en fait, ça m'étonne pas. Et puis en plus, par exemple, on dit souvent que dans la vente, par exemple de SaaS, etc., ce qu'il faut trouver, c'est l'impact que tu peux avoir. C'est exactement la même chose là, mais faut essayer de trouver qu'est-ce qui se passe si tu ne vends pas. Mais là, en fait, sur le produit, c'est pas qu'il se passe rien. Il se passe, par exemple, dans notre cas là, de notre exercice, que je continue à peu marger avec les autres crèmes que j'ai, mais ça ne veut pas dire que j'ai un problème de vente. Je marche peu, mais je vendrai toujours des produits. Vu qu'en fait, en plus, c'est pas mon pain. Enfin, j'ai pas vu mes clientes hyper enthousiastes pour acheter mes crèmes. Du coup, voilà. Donc, en fait, en vrai, là, dans ce cas-là, ou même dans d'autres cas, t'as pas le truc de « il se passe rien, en fait, si je t'achète pas ».
C'est ça.
C'est plutôt un truc de confiance sur les produits et de se dire « en fait, je suis plutôt fière ». J'ai l'impression que c'est un peu ça. Je serais fière d'avoir ces produits chez moi, quoi. Il y a un peu un truc de fierté.
Il y a du ça.
Là où peut-être les pharmacies, là, tu peux peut-être un peu plus jouer sur le fait de « attention, vous loupez la, enfin, vous loupez l'opportunité de pouvoir faire du chiffre d'affaires
c'est
en plus.
C'est ça, effectivement. Et du coup, ça va être hyper important en fonction de ta cible de savoir vraiment ce qu'ils recherchent. Magasin bio, effectivement, ça va être plus long parce que ça va être de l'affect. Pharmacie, on va se parler vraiment business. Et de là, il y a un peu cette urgence. Et notamment, tout ce qui est remise en pharmacie va mieux fonctionner. Parce qu'ils sont dans l'urgence en mode, OK, je vais faire plus de chiffre d'affaires. Et en plus de ça, j'aurai une meilleure marge. OK, je référence la marque. Et après, qu'on se le dise en produit, ce qui va être hyper important aussi, c'est toute la communication. C'est-à-dire que si je te dis, bah, écoutez, demain, moi, je vais faire de la pub télé et je vais marquer le nom de ta boutique sur ma pub ou sur Instagram, qu'importe. Hein. Là, tu vas peut-être te dire, OK, bah, je vais peut-être référencer parce qu'effectivement, ça vaut vraiment le coup que je référence maintenant. Mais parfois, il y a des marques qui n'ont pas forcément ce budget-là non plus en digital. Donc, il faut s'adapter en fonction de ce qu'on a.
Ok, mais du coup, tu as vraiment un truc multicanal à faire avec eux pour qu'ils aient l'impression vraiment de que ça vaut le coup de te référencer chez
c'est
eux.
C'est ça.
Ok, et sur, sur du coup les objections que tu peux avoir en fait sur la partie produit, c'est quoi les objections qui reviennent le plus? Et du coup, c'est quoi les moyens que tu as, toi, de les détourner globalement?
Alors, la numéro un, c'est « j'ai pas le budget ». Et d'ailleurs, je ne suis pas sûre que tu m'aies sorti celle-là. Mais...
Non, je ne te l'ai pas dit, mais parce que, en fait, justement, alors je pense que c'est parce que c'est une méconnaissance, tu vois, de ce type de vente. Quand tu parles de budget, parce que si je référence ta marque, mon objectif, c'est je dois t'acheter. Parce qu'il y a plusieurs, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs types de ventes. Il y a des, j'ai déjà vu, par exemple, dans les barbiers, tu vois, des gens qui vont mettre leurs produits, mais ils ne vont rien demander.
Ouais, ça,
c'est juste, ils vont être payés à la vente.
Ouais, ça s'appelle du dépôt-vente. Effectivement, ça existe.
D'accord. Et autrement, toi, ce que tu fais plus, j'ai l'impression que c'est plus de la vente, c'est-à-dire qu'ils achètent une partie de ton stock et ils le vendent et ensuite, ils se remboursent et ils margent.
Exactement. C'est exactement ça. Tu as deux possibilités, dépôt-vente, mais pour une marque, par exemple, qu'est-ce que ça demande? Ça veut dire qu'il faut avoir une gestion en interne assez incroyable. Parce que si tu fais ça sur 100 ou même 1000 points de vente, ça veut dire qu'il faut que tu saches à quel moment ton barbier a vendu ton produit et que tu aies un sales derrière qui fasse une gestion de portefeuille très pointue. Et honnêtement, c'est très chronophage, ça demande du temps. Et ça veut dire aussi qu'en termes de fonds de roulement, enfin en termes de trésorerie, tu dois avoir les reins quand même assez solides parce que l'argent ne rentre pas tout de suite. Alors que moi, je déconseille honnêtement le dépôt-vente. Ça peut être bien quand tu fais du démarrage, tu es une jeune marque, tu veux tester ton marché et autres. Mais après, non, il faut qu'ils achètent. Et du coup, il faut qu'on les éduque à acheter. C'est un peu ça, le métier de sales. Et donc, effectivement, moi, je fais que de la vente où ils doivent sortir leur CB.
Bah, surtout qu'en plus, ça doit être horrible, le dépôt-vente, parce qu'en fait, tu dois incentiver les gens à vendre ton produit parce qu'ils peuvent le mettre dans un coin.
C'est ça.
Voilà. J'ai bien aimé, en fait, le fait que tu disais la partie présentoir, justement. Peut-être je fais une remise pour qu'on puisse travailler, en fait, sur la présentation de mes produits, etc. Donc, du coup, il y a le dépôt-vente, ça, c'est le premier truc. Et après, il y a vendre le stock. Donc, ça, c'était plus dans le cas où on était là. Du coup, j'ai pas de budget, ça veut dire que ça demande quoi, en fait, à un magasin, en fait? Ça demande, en fait, de... Parce que finalement, si ça marche, ils se remboursent rapidement et ils margent.
Oui, mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans une boutique, ils ont potentiellement 100 marques différentes. 100 marques, à chaque fois, ils ont payé. Donc, je dis n'importe quoi. Imaginons qu'ils mettent 300 euros par marque. On le sait très bien. Alors, généralement, quand tu implantes une marque, tu mets à peu près 2 mois avant tout ton stock et à faire ensuite du rassort. Donc, quand tu te mets vraiment à la place de la boutique, ta boutique, toi, tu as mis de l'argent sur la table. Donc, tu as payé 300 euros fois 100, fois 1000, fois n'importe. Et du coup, tu dois attendre que chacun des produits se vende avant d'avoir de la trésorerie. Donc, en fait, tu as des produits qu'on appelle qui dorment un peu en rayon. Tu perds quand même de l'argent, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont là, ça ne se vend pas tout de suite et tu dois attendre d'avoir. Donc, effectivement, ils vont vendre et ils vont se rembourser et faire de la marge. Mais c'est un cycle de vente qui est quand même assez long. Et quand ils te disent, généralement, je n'ai pas de budget, ça veut dire que clairement, aujourd'hui, soit ils ont fait du réachat sur d'autres marques, soit effectivement, finalement, les rotations ne sont pas forcément là sur le secteur cosmétique. Et du coup, eux, ça leur demande, c'est un investissement. Ils réinvestissent dans du stock pour espérer, entre guillemets, avoir des clientes qui viennent, avoir des clientes qui achètent. Mais en soi, c'est un risque pour eux. Ils ne sont pas sûrs à 100% qu'en référençant ta marque, ça va leur générer des ventes.
Alors, je trouve ça hyper intéressant et en même temps hyper dur par rapport à d'autres types de ventes. C'est-à-dire que tu ne peux pas garantir, au final, dans ce type de vente, un résultat.
C'est ça. Exactement.
Okay.
Et alors, ce qu'il faut savoir dans ce type de vente, c'est c'est quand même à toi, Marc, tu dois absolument aider ton vendeur avant, enfin, ton vendeur avant. Donc, c'est à toi de mettre tous les moyens possibles pour que ton produit, vraiment, il sorte. Et c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez, je ne pense pas que vous ayez cette notion en ça, c'est le sell-in, c'est ce que ta marque t'achète, et le sell-out, c'est ce que ton revendeur vend. Donc, dans le produit, on doit vraiment avoir cette notion de je vais booster le sell-out, donc je vais mettre en place des actions commerciales pour aider mon vendeur. Ça peut être des remises, des promotions, ça peut être mettre en place une animatrice qui va venir animer le rayon, ça peut être plein de choses, des challenge équipes. Donc, je booste mon sell-out pour que la marque ait confiance en moi. Ils disent « Ah oui, finalement, cette marque-là, elle sort, ça marche bien, on y va, je vais continuer avec eux, je vais faire durer à ça. » Et de là, je vais avoir mon sell-in. Alors que généralement, les marques, qu'est-ce qu'elles font en prospection? C'est elles veulent faire du sell-in à mort. Donc, elles appellent, elles font, elles ouvrent plein de boutiques, sauf qu'après, elles n'ont pas les moyens en interne de booster le sell-out. Et du coup, ça fait des marques qui dorment en rayon et ton vendeur les déçu. Et du coup, tu dois recommencer tout le boulot parce que tu perds tes clients.
Ouais, et puis en plus, le marché, il n'est pas illimité, en fait, sur les magasins. Enfin, tu vois, genre...
C'est ça.
Et du coup, alors, j'ai deux questions, justement, par rapport à ça. C'est-à-dire que ma première question, je vais commencer là-dessus. C'est, est-ce qu'il n'y a pas un moment, en fait, justement, vous n'avez pas une temporalité sur cette partie-là, produit, qui, au final, serait de vendre un peu plus au moment des fêtes de Noël ou au moment de la fête des mères, si tu es sur un produit, hein, peut-être un peu plus... est-ce qu'il n'y a pas, du coup, des stratégies à avoir pour positionner et démarcher des boîtes à un moment où, en fait, enfin, j'appelle ça des boîtes, des magasins, pour leur dire, je parle vraiment des magasins plus locaux parce que j'imagine que Sephora, etc., eux-mêmes ont des solutions pour mettre en avant certains produits, etc. Mais du coup, voilà, des stratégies qui leur permettent de se dire, OK, en fait, j'ai confiance, de toute façon, ça partira.
Oui. Effectivement, il y a des temps forts. Hein. T'as tout à fait raison. On le sait, Noël, c'est, les gens vont venir dans ton magasin pour faire les cadeaux. Donc, par contre, il faut bien connaître ton cycle de vente, se dire, OK, s'ils veulent vendre pour Noël, ils vont acheter, ils commencent, tu vois, là, on est fin octobre, début novembre, ils sont en train de faire leur stock pour les cadeaux de Noël. Donc, ça veut dire que moi, en amont, il faut potentiellement que je leur ai présenté en août ou en septembre, parce qu'on a facilement un cycle de vente de 2 voire 3 mois avant qu'ils le mettent en boutique. Donc, effectivement, il y a plein de... En fonction de la boutique que tu prospectes, ce secteur d'activité, il va y avoir des temps forts, des temporalités, que ce soit Bar Noël, la fête des mères, tu l'as très bien dit. L'été aussi, en fonction des régions. Là, par exemple, dans le sud, tu vois, moi, je suis à Aix-Marseille. L'été, on sait qu'il y a des touristes et autres. Donc, forcément, c'est des temps forts, ce qui ne va pas être forcément le cas dans l'est de la France. Tu vois, donc, il faut vraiment bien sectoriser et savoir aussi quand ils achètent. Ça va être hyper important. C'est vrai qu'en phase de découverte, je ne te l'ai pas demandé, parce que bon, je connais, normalement, tu es quand même censé connaître ton marché, mais par exemple, McBio, je sais qu'il n'y a pas forcément de process. Pharmacie, par exemple, si tu vends des crèmes solaires, il y a des périodes d'achat. C'est-à-dire que potentiellement, ils vont faire des précommandes en octobre pour être livrés en février et avoir leur produit en février-mars en rayon. Donc toi, si tu es une marque solaire et que tu arrives, par exemple, en février pour te dire, bah oui, ça va être l'été. Non, c'est trop tard. Ils ont déjà cramé tout leur budget en octobre-novembre. Donc, c'est hyper important de connaître les secteurs.
C'est hyper important d'avoir... Ouais. Et l'autre question, c'est que, bah, imaginons, parce que ça, j'ai déjà vu ça, je me lance là, j'ai envie de me lancer. Par rapport à ce que tu as dit avant, stratégiquement, c'est mieux de commencer, finalement, ne pas être trop gourmand, en fait. Parce que tu es déjà une marque, on va dire, qui est présente en e-commerce, tu vends tes produits, etc. C'est bien de commencer par des magasins sur lesquels tu sais que tu vas pouvoir mettre des actions pour pouvoir accompagner ton client à vendre et avoir confiance, pour pouvoir ensuite qu'il investit beaucoup plus dans ta marque, qu'il réachète beaucoup plus, le sécuriser et ensuite peut-être... Enfin, je ne sais
c'est
pas
s'il y a des... Enfin, moi, en tout cas, c'est que je recommande, à moins que tu aies l'équipe en interne. Si tu es limité en termes de nombre de sales, qu'on se le dise, tu as quand même besoin, on va dire, un commercial ou un produit, il est capable de gérer à peu près 300 voire 400 points de vente. Que ce soit sur terrain ou potentiellement à distance. Mais du coup, donc, si tu veux avoir 1000, bah, il te faut au moins 3, 4, voire 5 sales pour pouvoir animer, les appeler régulièrement. Et ça, je ne parle même pas des animations. Des animatrices qui vont venir...
Oui, parce que là, en fait, là, tu parles des gens qui appellent pour savoir si les produits ont été écoulés, s'il y a des problèmes, donner des conseils. C'est ça. Mais ce n'est pas des animations où tu peux aller en magasin. Ouais.
Enfin, donc là, c'est encore un compliqué. Autre budget. Donc effectivement, si tu es une petite équipe, step by step. C'est-à-dire, concentre-toi, si tu es capable d'en gérer 10, bah, fais-en que 10, mais fais du chiffre d'affaires avec ces 10, quoi. Des fois, il vaut mieux avoir que 10 points de vente que 100, et parce que ces 10-là vont vraiment te rapporter de l'argent, que d'en avoir 100 et que finalement, tes 100, ils ne te rapportent pas beaucoup.
Carrément. En fait, du coup, c'est passionnant. Du coup, j'ai envie de parler plutôt des plus gros, juste. Après, peut-être qu'on n'a pas vu toutes les objections, donc on va revenir sur les objections. Mais sur les plus gros, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, j'ai déjà eu des retours de boîtes qui vendaient des produits. Alors, c'était plus en l'occurrence aussi, c'était pareil, cosmétiques, soins du cheveu, etc., etc. Qui au final, en fait, avaient des problèmes de stock. Ça arrive souvent ou pas? C'est-à-dire que finalement, en fait, la marque, enfin, elle est vendue, je ne sais pas, à Monoprix ou à Sephora, elle vend ses produits, mais ensuite, derrière, tu n'as pas le stock nécessaire pour pouvoir faire en sorte, etc. Est-ce que ça arrive souvent ou, en fait, j'ai déjà entendu
ouais,
ça. C'est
effectivement, ça arrive. Et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais alors, tu as le stock de la marque, c'est ça que tu me parles, hein, le fait que la marque, finalement, n'est pas
exactement,
le stock pour réapprovisionner.
Parce que finalement, oui. C'est ça, en fait, ça se vend. Il n'y a pas de problème sur le produit. Et je pense que là, je t'ai parlé des grandes marques parce que c'est celles qui peuvent vendre plus facilement, plus rapidement, mais c'est aussi pour un magasin. Le client dit, bah, écoute, je marche bien, le produit se vend, mes clientes le redemandent. C'est ça qui m'a permis d'attirer mes clients. Je reviens dans le magasin. Moi, ça m'est déjà arrivé dans le magasin bio d'avoir adoré un produit et je me rends compte qu'il n'est plus là.
T'es triste, ouais.
Bah, après, on me parle, voilà. T'es hyper triste. Bah, du coup, tu y as plus. Et quand tu le trouves ailleurs, bah, tu vas aller ailleurs. Surtout quand on est sur des produits, voilà, qui sont, qui apporte vraiment un vrai plus. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais là-dessus? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a de la communication à faire aux clients? Est-ce que, du coup, c'est quoi c'est,
et oui, parce que c'est vrai que pour les marques, ça leur demande une gestion en interne. Il faut tout ce qui est réapprovisionnement, refaire du stock et tout. Il faut vraiment bien gérer ça. Donc, en interne, déjà, il faut que les équipes, celles, soient vraiment bien connectées à la prod pour leur... qu'on leur dise, OK, attention, là, il nous reste quand même plus beaucoup de stock. Je pense qu'on va pouvoir livrer que 100 clients sur les 200 où tu as signé des bons de commandes. Et donc là, ça va être vraiment la relation client qui va faire que, entre guillemets, ça va passer, que tu vas garder ton client. Mais oui, ça va être hyper important. Moi, je trouve que dans le produit, on a un vrai truc à faire, c'est créer du lien. On va vraiment, plus tu vas créer du lien avec ta boutique, plus elle va avoir confiance en toi, plus elle va avoir envie de vendre tes produits. Et donc, effectivement, quand tu commets une erreur, que tu n'as pas de stock, et bien là, ça va être, ils vont quand même te comprendre et tu vas pouvoir jouer la carte. Même sur du grand compte, hein, ça va être hyper important que les acheteurs t'adorent parce qu'ils trouvent que ta marque est cool, que toi, en tant que sales, ils t'aiment aussi. Donc, ils ont envie de faire durer à ça.
Oui, parce que ça peut arriver à tout le monde d'avoir des problématiques de stock, surtout dans des périodes où tu as des produits qui manquent, etc., pour faire ton produit.
C'est
enfin,
ça.
Voilà,
Et il faut vraiment bien anticiper. Et c'est aussi à nous d'éduquer les grands comptes. C'est-à-dire, une fois qu'on a signé, il faut qu'on leur dise, bah, écoutez, si vous voulez me faire une commande de 10 000 pièces, j'ai besoin de le savoir 6 mois à l'avance. Donc, il faut qu'eux soient capables de s'engager sur des volumes de vente pour qu'on puisse nous produire derrière.
Nickel. Alors là, c'était une petite parenthèse parce que je sais que c'était quelque chose que j'avais déjà, on m'avait déjà remonté et je me disais que ça pouvait peut-être potentiellement aider certains. Du coup, on continue. Donc, première objection, c'est le budget. Deuxième objection que tu retrouves le plus, on va faire trois.
On va en faire trois. En vrai, ça dépend tellement des secteurs d'activité et autres, mais souvent, ouais. C'est le budget en numéro un. En numéro deux, je ne suis pas intéressée. Souvent, ils te disent ça, non, mais ça ne m'intéresse pas. Alors qu'ils ont quand même pris le temps de faire le rendez-vous.
Le call avec vous,
donc,
ouais.
Clairement, si tu as cette objection-là, c'est qu'ils n'ont pas compris quel était son bénéfice d'avoir ta marque en rayon.
OK. Donc, tu n'es pas parti chercher les bonnes infos pour pouvoir
c'est
bien...
C'est ça. Et là, tu peux sortir tes rames. Pour essayer de poser quelques questions pour comprendre clairement pourquoi ça l'intéresse pas. Nous, en produit, je ne sais pas si vous avez ça en SaaS, mais on appelle ça un peu les fausses barbes. C'est-à-dire que je vais te mitrailler de fausses objections pour juste me débarrasser de toi. Donc souvent, bah, je ne suis pas intéressée.
Si, on a ça.
Ouais, le budget aussi, ça vient souvent.
Généralement, c'est jamais vraiment le vrai problème quand ils ont... Parce qu'ils savent, j'imagine, quand tu leur présentes leur produit, ils savent que tu vas leur vendre un truc, etc. Justement, je t'ai fait une objection parce que, qui était « je ne sais pas ». Je ne sais pas trop, il faut que je demande à mes clientes. Ça, c'est un truc que tu n'auras pas en SaaS, tu vois. Du coup, ça t'y répond comment, en fait?
Alors moi déjà rien qu'en termes de technique de vente, ce que je fais déjà, j'accepte toujours l'objection. Ok, je comprends effectivement, vous avez l'air d'être proche de vos clientes, c'est important d'avoir leur avis, mais il faut que je valide que ce soit vraiment ça le problème. Donc là, je vais reformuler en proposant une solution qui sera potentiellement peut-être pas celle que je vais réellement proposer, mais je veux juste savoir si c'est vraiment la vérité ou si c'est une fausse objection. Donc je vais leur dire par exemple, OK, donc si je fais tester ma marque à plusieurs de vos clientes et que ça leur plaise, vous allez référencer ma marque, par exemple. Donc là...
Ouais, j'ai vu que t'as fait ça. J'ai vu que t'as fait ça. J'ai trouvé ça assez cavalier et je me suis dit, mais ok. Et du coup, t'as fait ça justement pour essayer que je puisse se dire, ok, en fait, le problème, c'est pas, je sais pas, c'est juste que, ou si c'est vraiment important que j'ai l'avis de mes clients, c'est ça?
Et soit ce sera non et tu vas me sortir une autre objection. Généralement, c'est souvent le cas. Tu vas me dire, ah non, mais finalement, j'ai pas forcément le budget maintenant. Ou si c'est un vrai oui, ok, bah là, je vais prendre le temps, entre guillemets, de traiter l'objection. Et donc, quand ils te disent ça, si c'est la vérité, et ça arrive souvent sur des magasins indépendants, tu as plusieurs possibilités. Moi, ce que je t'ai proposé, parce que je voulais vendre à tout prix, c'est « Ok, fais-moi une commande. Par contre, ce que je te propose, c'est pas de payer tout de suite la commande. Tu vas la payer qu'à 60 jours ou à 30 jours. Comme ça, tes clientes, en 30 jours, elles vont découvrir. Toi, ça t'aura coûté 0 €. Et à la fin de cette période d'essai, si tu n'as pas vendu, on rediscute. » Ça, c'est possible.
C'est pas mal, ça.
Autre possibilité, c'est on offre des échantillons. Ok, je vous envoie quelques échantillons ou je vous envoie quelques produits, 2-3 pots de crème pour faire tester à vos clients privilèges ou pourquoi pas mettre en place une mécanique. Ok, ce que je vous propose, je vais vous envoyer des échantillons. À chaque fois qu'elles achètent un produit, vous leur offrez les petits échantillons et vous leur demandez un retour et vous faites un petit point plus tard. Ça, c'est possible.
Ok, trop bien. Trop bien. Bah, en tout cas, t'as donné énormément d'informations.
J'en ai oublié une objection qui vient de me revenir, qui vient souvent, c'est le franco.
Vas-y.
Le franco. C'est, tu sais qu'en fait, nous, quand on commande des produits, on est obligé de mettre un franco de port. C'est-à-dire à partir de quel budget, moi, Marc, je suis capable de t'envoyer mes produits de façon gratuite et où tu ne vas pas payer les frais de port, tout simplement. Et donc, les francos vont être autour. Alors, ça va dépendre des marques, mais souvent, les startups, ils ont des francos quand même relativement élevés. C'est normal, c'est des jeunes entreprises et autres. Donc, si tu as un franco à 300 €, à 400 €, qui est assez élevé, ça va être une objection. Non, ah non, votre franco est trop élevé. Moi, ça veut dire qu'à chaque fois, je dois m'engager, je dois mettre 300 € sur la table pour avoir un réassort, alors que potentiellement, il ne manque qu'une crème. Et donc, ça, c'est l'objection aussi, une des numéro 3 qui vient très souvent. Donc, pour la contrer, plusieurs possibilités. Soit tu as un franco élevé, effectivement, tu dis les petits magasins, c'est pas pour toi. Soit tu peux passer sur des plateformes d'achat du style, c'est des sortes de marketplace. Je ne sais pas si je peux nommer des noms. Style Encore Store, en fait, ta marque, elle va pouvoir faire des achats multimarques, un peu le Amazon version pro. Ou alors, tu lui dis, OK, vous pouvez passer faire une commande plus petite, mais en contrepartie, je vous demande de payer un peu des frais de port, qu'elle monte dans un gros supplémentaire.
OK, d'accord, très clair. Alors, en tout cas, tu as donné pas mal d'éléments qui permettent de savoir comment on gère une phase de découverte, quelles sont les informations qu'on doit demander pour pouvoir... vendre un produit. Du coup, en plus, on a eu la démo, même si elle aurait pu être encore meilleure si j'étais vraiment de ce domaine-là. Et ensuite, la partie objection. Dernière question, parce qu'on va finir, ça fait un petit moment qu'on commence à parler ensemble. Je sais que tu bosses du coup avec Anaëlle, que c'est son associé, que vous avez créé un SaaS ensemble, une boîte ensemble pour aider les boîtes à recruter, notamment les alternants, qui s'appelle Stagios. Et vous travaillez aussi également ensemble sur le développement commercial. Donc, toi, tu aides les boîtes sur les startups qui vendent du produit. Elle fait du SaaS. Donc, j'imagine que tu vois un peu ce qu'elle fait. Quel conseil tu pourrais donner à des gens qui font du SaaS, par exemple après, je te demanderai l'inverse. Des techniques de vente que vous avez en produit qui pourraient servir à des gens qui font du SaaS. Et l'inverse, quelles sont les techniques que tu as prises de Anaëlle qui vend du SaaS pour pouvoir vendre tes produits?
Ah,
tu peux me dire pas du tout, mais c'est parce que souvent on oppose les types de ventes, alors que parfois je me dis qu'il y a des choses qu'on peut croiser.
Ouais, non, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut croiser. Après, en fait, moi je trouve quand même, comme je te disais, que le démarrage, le rendez-vous commercial, la phase de découverte, finalement, elle est quand même relativement similaire. Que ce soit du produit, que du SaaS, même dans ta vente. Finalement, un SaaS, vous avez un peu quand même le même problème. C'est-à-dire, quand je vois Anaëlle, la plupart, ils passent 30 minutes à parler du logiciel et du petit bouton qu'ils ont mis pour vous faciliter la vie. Encore une fois, ce n'est pas ça qui fait qu'il va acheter. C'est parce que ça te fait gagner du temps, parce que ça te facilite le recrutement, enfin, qu'importe. Du coup, je trouve qu'on a un peu quand même les mêmes problématiques. La seule fin, c'est juste à la fin que ça va être différent. Moi, je vais te parler de franco, de marge et autres. Et où elle va, vous allez quand même closer plus vite, j'ai la sensation que moi qui vais galérer en parce que je n'ai pas un besoin urgent.
Et ben justement, je t'ai posé la question parce que je trouve que ce qui est intéressant, et si je devrais, moi, me dire en fait ce que j'ai trouvé intéressant et qu'est-ce que je pourrais servir, c'est que justement, je trouve que la mauvaise manière en fait de vendre aujourd'hui un produit en SaaS, c'est justement, oui, effectivement, on va dire, il faut présenter les bénéfices, etc., etc. Mais je trouve que ce n'est pas souvent lié, alors parfois, ce n'est pas facile de le faire, mais ce n'est pas souvent lié à quelque chose de, comme t'as pu le faire, de dire en fait qu'est-ce que tu vas vraiment gagner. Souvent, on va souvent en surface, on dit ça va vous permettre de gagner du temps, ça vous permet, etc. J'ai l'impression que sur le produit, t'as pas d'autre choix que d'être dans une logique très chiffrée et qui est plus palpable en fait, en tout cas pour ton prospect. C'est ce que j'ai l'impression, en tout cas de ce que tu as fait, je me suis dit en fait, en vrai, tu peux ou proposer des scénarios qui permettent en fait en tout cas de voilà, c'est pas tout le temps fait, c'est souvent fait par les bons ce qu'on appelle le fameux top 1%, mais voilà,
tu vois, ouais, c'est vrai, parfois, que je peux m'en sortir souvent, entre guillemets, je vais avoir des techniques pour m'en sortir, alors vous peut-être moi.
Exactement. Et du coup, au contraire, est-ce que tu as pris des choses d'elle, d'Anaëlle, des techniques?
Est-ce que j'ai pris des techniques? C'est une bonne question. Alors si,
pas, c'est pas grave.
Plus sur le côté grand compte. C'est-à-dire que vraiment, parce que moi, j'ai l'habitude qu'il n'y ait toujours qu'un acheteur ou autre. Après, ça arrive qu'il y ait plusieurs personnes qui décident. Et Anaëlle, ça, je vois que vous, dans le SaaS, vous savez que, par exemple, sur un grand compte, il va y avoir, OK, la personne qui va utiliser le logiciel, il va y avoir le CEO, il va y avoir le DSI. Et du coup, c'est comment elle arrive à jongler à chaque fois pour se dire, pour essayer d'avoir le rendez-vous avec la bonne personne à la suite.
Ok, donc ça, c'est quelque chose qui t'a un peu inspiré pour essayer de trouver.
Exactement,
pareil,
qu'on ne pense pas forcément faire, qu'on ne pense pas forcément parce qu'on se dit j'ai l'acheteur, c'est lui qui achète, mais toujours demander, essayer de trouver s'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la décision.
Décision. Ok, nickel. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner avant qu'on dise.
Un dernier conseil, je dirais vraiment votre phase de découverte, pour moi, c'est tellement important. Arrêtez de faire des trucs très généralistes, posez, chaque client est différent, surtout en produit. Chaque boutique a des enjeux différents et ne standardisez pas le discours. Allez vraiment trouver quelle est la problématique de votre client et comment vous allez vraiment pouvoir le résoudre avec votre produit.
Ok, bah écoute, très cool. Merci énormément pour ces partages. Et bah écoute, je te souhaite beaucoup de réussite pour tes différents
Merci
projets.
Beaucoup.
Et puis à
bientôt.
Bye. Ciao. C'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec assez de matériel pour exploser vos ventes. Si vous n'en avez pas eu encore assez, abonnez-vous à Vendu dès maintenant sur votre appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vendu.fr où vous trouverez plus de contenu. Par exemple, tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.